Il est 8h sur France Culture, on se retrouve après le journal. Un journal qui est présenté ce matin par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un homme a tué 2 personnes et fait 3 blessés hier lors d'une attaque au couteau sur le pont de Londres. Une attaque terroriste selon la police britannique. Nous ferons le point sur l'enquête dans ce journal.
En Allemagne, le parti d'extrême droite, l'AFD, est réuni en congrès ce week-end avec un discours qui se radicalise encore un peu plus, nous dira notre correspondant Ludovic Piétenu.
En France, Europe Écologie Les Verts doit élire aujourd'hui un nouveau secrétaire général, 6 mois après ses très bons résultats aux élections européennes. Précision de Rosalie Lafarge dans un instant. Alors qu'à Radio France, la grève lancée depuis lundi a été reconduite hier lors d'un vote en Assemblée Générale. Une manifestation a réuni 200 personnes devant le ministère de la Culture. Reportage à suivre. Et puis votre invitée, Caroline.
Eh bien, d'un service public à un autre, nous pencherons, nous, sur la crise de l'hôpital public. Appel à une grande mobilisation nationale encore aujourd'hui. Notre invitée sera la neurologue Sophie Crozier. Elle est responsable de l'unité des urgences cérébrovasculaires à la Pitié-Salpêtrière à Paris et elle est cofondatrice, membre du collectif Interhôpitaux.
À tout à l'heure. Une attaque au couteau au cœur de Londres hier après-midi. 2 personnes ont été tuées, 3 personnes blessées. L'assaillant a été tué par les forces de l'ordre après avoir été maîtrisé par des passants. Le Premier ministre britannique a suspendu sa campagne pour les législatives. Boris Johnson a convoqué une cellule de crise hier et salué l'héroïsme des passants.
Je veux rendre hommage au courage extraordinaire de ces passants qui sont intervenus physiquement pour sauver des vies. Pour moi, ils représentent ce que notre pays fait de mieux et je les en remercie. La police londonienne continue l'enquête et je peux vous assurer que tous ceux impliqués dans cette attaque seront traqués et traduits en justice. Et je pense que le message que nous leur envoyons est que ce pays ne sera jamais impressionné, divisé ni intimidé par ce genre d'attaque. Les valeurs britanniques triompheront.
Scotland Yard a confirmé qu'il s'agissait bien d'une attaque terroriste, la première dans la capitale britannique depuis 2017. Attaque qui avait fait 8 morts et 48 blessés. L'assaillant était en liberté conditionnelle depuis 1 an, condamné pour terrorisme. Olivier Poujade.
Oui, cet homme de 28 ans était d'ailleurs connu des services de police, condamné en 2012 à 16 ans de prison pour infraction terroriste, notamment pour son appartenance à l'organisation Al-Qaïda, groupe qui avait tenté à cette époque de mettre sur pied un attentat visant la Bourse de Londres. Ousmane Khan avait bénéficié en 2018 d'une remise en liberté conditionnelle. Une perquisition a eu lieu hier à son domicile dans le comté de Staffordshire, au centre de l'Angleterre, dans les heures qui ont suivi son attaque en plein cœur de la capitale britannique. Attaque perpétrée en pleine campagne électorale au Royaume-Uni, des élections législatives cruciales pour l'avenir du pays et pour l'issue du Brexit sont programmées le 12 décembre prochain. Et même si la campagne effectivement a été interrompue hier, Boris Johnson, le Premier ministre, dans sa déclaration à la Nation, a insisté sur le sort réservé aux criminels terroristes, considérant, je cite, que c'était une erreur de leur permettre de sortir plus tôt de prison et estimant très important de sortir de ces habitude. Message très clair adressé à son adversaire politique, le travailliste Jeremy Corbyn, qui a souvent réclamé plus de mansuétude à l'égard de ses profils terroristes et a été lui-même souvent caricaturé comme l'ami des terroristes par ses opposants politiques.
Olivier Poujade. Dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 qui avait fait 130 morts et 350 blessés à Paris et Saint-Denis, le parquet national antiterroriste a rendu hier son réquisitoire définitif. Il demande le renvoi aux assises spéciales de 20 personnes, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos terroristes.
France Culture, 8h04, suite du journal. En Algérie, des manifestations massives ont eu lieu hier à Alger et dans plusieurs autres villes du pays pour ce 41e vendredi de mobilisation consécutif, et ce depuis le 22 février dernier.
Oui, à moins de 15 jours de l'élection présidentielle, une élection dénoncée dans la rue comme une simple manière de prolonger le système politique en place. Au moins 25 personnes ont été arrêtées avant le départ du cortège à Alger, et selon le Comité National de Libération des Détenus, ce comité recense les personnes incarcérées en lien avec la mobilisation. 140 personnes, manifestants, militants ou journalistes, ont été placées en détention préventive ou condamnées ces derniers mois. En Allemagne, le parti d'extrême droite, l'AFD, tient son congrès ce week-end en Basse-Saxe. Ce parti, fondé il y a 6 ans, s'installe d'élection en élection dans le paysage politique allemand. Encore récemment, en séduisant environ 1 électeur sur 4 lors des 3 élections régionales dans l'est du pays, avec un discours de plus en plus radical. À Berlin, Ludovic Piétenu.
Jamais en Allemagne, depuis la Seconde Guerre mondiale, la parole radicale d'extrême droite n'a eu autant de place, de ressources et de pouvoir. Cela fait 2 ans que l'AFD est devenue la première force politique d'opposition, en faisant son entrée au Parlement, en libérant une parole qui, depuis la fin de l'Allemagne nazie, était devenue tabou. Cela fait 2 ans que l'aile dure du parti, qui ne pesait guère que 30% des adhérents, gagne en légitimité au fur et à mesure que cette ligne prouve son efficacité électorale. Si bien que parmi ceux qui, ce week-end, pourraient accéder aux postes à responsabilité, on retrouve pêle-mêle des antisémites, des révisionnistes et des négationnistes, ou bien encore des complotistes, des racistes et des xénophobes, des gens proches de la scène néo-nazie. 30 ans après la chute du mur de Berlin, tout cela répète que la chancelière Angela Merkel est un despote qui bride la liberté d'expression, comme du temps du régime communiste de la RDA, un mensonge qui passe encore mieux parce qu'elle est au pouvoir depuis longtemps, depuis 2005, et chez les ex-Allemands de l'Est qui ont connu la dictature. C'est un discours qui fonctionne. Ce congrès devrait asseoir cette ligne, cette orientation stratégique, payante électoralement ces derniers mois, mais risquée, puisque l'AFD, avec ce discours de plus en plus radical, est un parti désormais placé sous la surveillance des services de renseignement et de protection de la Constitution, et qui risque d'ici le printemps l'interdiction pure et simple.
Ludovic Piétenu.
En France, les écologistes élisent aujourd'hui leur nouveau secrétaire national.
6 mois après avoir décroché la 3e place aux élections européennes, Europe Écologie Les Verts est réunie donc en congrès à Saint-Denis pour choisir le successeur de David Cormand. Et le parti devrait a priori désigner Julien Bayou, Rosalie Lafarge.
Il est arrivé en tête de ce qu'on pourrait appeler le premier tour il y a 2 semaines, Julien Bayou. Avec un peu plus de 42% des voix, sa motion devance largement celle de l'ancienne députée Eva Sas, 26%, celle d'Alain Coulombel, le secrétaire national adjoint, 22%, et celle de Philippe Stanisière, membre du bureau exécutif, 8,5%. Depuis ces résultats, les tractations internes sont intenses. Les adversaires de Julien Bayou ont signé un texte commun. Ils l'appellent à travailler à une synthèse large s'il ne veut pas rencontrer d'opposition aujourd'hui. Les Verts le savent, pour transformer l'essai des européennes au municipal d'abord et pourquoi pas à la présidentielle ensuite, ils n'ont pas intérêt à faire étalage de leur division en interne. Mais jusqu'au dernier moment, rien n'est joué. Historiquement, le choix du secrétaire national du parti n'est pas un long fleuve tranquille. Cette fois, la composition du bureau exécutif questionne et puis la personnalité de Julien Bayou divise. Certains l'accusent d'être responsable d'une dérive gauchiste de ELV. D'autres lui reprochent ses actions médiatiques marquantes au sein des collectifs Jeudi Noir ou Génération Précaire, considérant que l'activisme ne fait pas la politique. Mais il en faudrait plus pour faire douter Julien Bayou, actuel porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il veut croire en un congrès apaisé. Il espère même, ce sont ses mots, un congrès ennuyeux.
Rosalie Lafarge. L'enseigne Monoprix, à nouveau condamnée hier pour avoir employé des salariés de nuit. Le tribunal de grande instance de Nanterre lui interdit d'employer des salariés après 21h, sous peine de recevoir une amende de 30 000 euros par infraction constatée. La grève est reconduite à Radio France, commencée lundi. Le mouvement va durer au moins jusqu'à ce lundi. Les salariés l'ont voté à la quasi-unanimité hier en Assemblée Générale. On entame donc ce matin le 6e jour de grève consécutif contre le plan d'économie de 60 millions d'euros présenté par la direction, qui prévoit notamment la suppression de 299 postes. Hier, 200 personnes ont manifesté près du ministère de la Culture, Maxime Tellier.
Les audiences montent, mais le moral baisse. C'est le genre de message qu'on peut lire, placardé dans les couloirs de la maison de la radio. Un sentiment d'injustice qui motive une partie des salariés à continuer la grève face à la direction. Le dernier événement en date, c'était hier après-midi, sous les fenêtres du ministère de la Culture à Paris. 200 salariés présents autour du cœur de Radio France, le plus touché par les suppressions de postes.
Joyeux chômage, les baisers de Radio France.
Autour des choristes, il y avait aussi des journalistes, des producteurs, des techniciens, réalisateurs, beaucoup de métiers, tous inquiets pour l'avenir du service public de la radio. Renaud Dalmar est délégué central CFDT.
Des gens qui se sont sentis atteints personnellement parce qu'ils sentaient qu'il y avait une attaque du collectif. On attaquait leur navire et on attaquait leur navire de l'intérieur.
Et donc la grève continue. Bertrand Durand, lui, est élu CGT au CSE central.
En fait, la direction et la présidente reste droit dans ses bottes. Le plan, c'est la seule solution. On a entendu ce discours dans les années 80 en Angleterre sous Thatcher. Nous, on ne l'accepte pas. On pense qu'il y a d'autres manières de construire un plan stratégique et surtout qui n'entraîne pas de suppression de postes.
Mais pour l'instant, eh bien, c'est porte close. La direction et le gouvernement n'ont cédé sur rien. Le mouvement devrait donc s'inscrire dans la durée. D'autres syndicats annoncent déjà une guérilla avec d'autres préavis de grève à venir, en janvier par exemple, lors du débat sur la loi audiovisuelle qui commencera à l'Assemblée nationale.
Les antennes sont encore perturbées ce matin, comme on le montre cette édition qui est plus courte que d'habitude. On fait un petit point sur la météo, un temps gris mais sec sur la majorité du pays ce matin. Du soleil au bord de la Méditerranée, de la pluie le long de la façade atlantique. Les températures sont en baisse avec 1 à 14 degrés en moyenne ce matin. 1 à Amiens, 7 à Clermont-Ferrand, jusqu'à 14 degrés à Nice.